marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Les patois de Suisse, tout un roman.
L'écriture va sortir du gosier au-dessus bien de l'âme. J'ai écrit en somme avec le langage de tout le peuple qui parlait autour de moi. Je ne sais pas s'il faut employer le mot patois, ou bien une inflexion patoise, une inflexion du parler populaire. J'emploierai ce mot pourvu qu'on le comprenne dans la façon dont j'emploie. J'emploie un verbe même inconnu, mais tel que je l'applique dans ma phrase, il doit être compréhensible et lisible. S'il l'est, j'ai raison.
Qui a parlé du silence des montagnes, certes pas Maurice Chappaz qu'on vient d'entendre, et qui disait du canton du Valais qu'il avait un gosier de grive. Entendant autour de lui le langage de tout le peuple, il disait « c'est de là qu'il faut écrire ». Défendant le parler populaire, Chappaz hésitait cependant à parler de patois. Cette hésitation tenait sans doute à la part française de sa formation. En France, le mot « patois » est d'usage péjoratif. Il désigne de manière imprécise tout usage ou manière de la langue jugé comme inférieur par la norme sociale. La clarté caractériserait le français et lui permettrait de se faire entendre de tous. Face à lui, le patois, il faudrait employer le mot au pluriel, serait beaucoup moins recommandable puisqu'il fait ses délices des particularités de chaque endroit et de chaque population. Les maîtres d'école en Suisse romande, dans leur enseignement, eux aussi ont privilégié le français comme langue de culture. Mais l'opinion publique était moins défavorable au patois qu'en France. La construction politique de la Confédération ne s'est pas faite comme celle de l'État-nation chez nous. On sait qu'elle reconnaît la juxtaposition de quatre langues nationales et, dès la fin du 19e, les autorités à Berne, comme au niveau des cantons, ont soutenu les efforts de sauvegarde des patois. Dès 1899, je le dis à la façon française, a débuté une entreprise qui n'est pas près d'être achevée et qui s'intitule Glossaire des patois romands. Elle est portée depuis 1973 par un institut universitaire à Neuchâtel, dans le Valais, 340 000 habitants seulement, et dont une part est alémanique. Il n'y a pas d'université, mais l'effort est porté par des sociétés locales et des communes. Ce mois-ci, le Val de Bagne, retenez bien ce nom, sort un dictionnaire de son patois qui pèse quelque 4 kilos. La sauvegarde des patois, passant par l'enregistrement, ce livre contient aussi un DVD-ROM. Maurice Chappaz serait bien content. Ayant passé une partie de son enfance dans la vallée, il était bagnard d'honneur. Il dénonçait le tourisme ravageur et les maquereaux qui vendaient les cimes. Mais il faut reconnaître qu'avec ce dictionnaire, le Val de Bagne, enrichi par ses visiteurs et sa station de Verbier, dépense son argent à bon escient.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Karel Ménine.
Bonjour Jean.
Ce n'est pas vous qui allez dire le contraire, parce que vous vous présenterez bientôt comme chercheur associé de l'entreprise du Val de Bagne. Retenez bien ce nom, Bagne et Bagnard. La dernière fois que vous êtes venu à la marge de l'histoire, c'était pour parler de la langue des signes. Et alors, quand on lit patois dans le Robert, on voit que les premières utilisations du mot patois consiste à dire que les mots sont si frustres qu'il faut y ajouter des gesticulations.
Oui, tout à fait. C'est souvent la caractéristique du patois, d'ailleurs. C'est en parler avec les mains, voire en parler un peu rustre. Le mot patois venant d'ailleurs de la racine de la patte, la main.
Il y a des entreprises comparables, il faut le dire quand même en un instant, en France, notamment l'Atlas ethnolinguistique de la France, qui a été soutenu très longtemps par le CNRS et qui est né d'une initiative suisse. Parce que c'est un Suisse en 1910 qui le premier publie un atlas linguistique de la France. Il s'appelle Jules Gilieron et c'est un modèle de ce côté-ci comme de l'autre. Et il dirait, comme tous les dialectologues, que le langage patoisant, il est tout entier dans ce que le paysan parle et mange en famille.
Rive droite du Rhône, Chermignon dessus. Une réunion de famille avec des amis.
Monsieur le curé, je dois venir vous trouver. Oh, vous êtes gentil de venir vous trouver. Oui, j'ai besoin de vous. Je vais vous demander quelque chose. Si vous ne pouviez pas me prêter un fromage jusqu'à la des Alpes.
Et vous, vous nous avez apporté de la saucisse du Val de Bagne, qu'on
sissurera
précisément tout à l'heure. C'est de la viande d'airain.
Exactement.
Vous expliquerez ce que ça veut dire. Vous parlez patois, vous,
Carrel? Pas du tout. Non, j'en ai honte. Non, non, j'ai pour habitude d'étudier des langues que je ne parle pas. Comme vous pouvez remarquer, je ne parle pas non plus la langue des signes.
Les autorités cantonales et fédérales en Suisse, quand sont venus des citoyens qui leur disaient « il faut faire quelque chose parce que c'est une perte pour la société que la disparition des langues que parlent les paysans dans les vallées », eh bien, ils ont dit oui.
Oui, alors ils ont dit oui, mais il faut dire d'abord qu'il y avait la conviction de quatre hommes qui sont allés frapper à la porte de la Confédération et qu'il y avait précédemment eu une aventure du côté des Suisses alémaniques qui était l'idioticon, qui était une première étude d'un dialecte qui, lui, n'était pas mis en danger puisque le Suisse alémanique est toujours pratiqué en Suisse. C'est un des quatre idiomes nationaux dont vous avez parlé au tout début de cette émission. Et ils avaient, eux, par contre, les Suisses romands, conscience que leur dialecte était en voie de disparition, en tout cas en grande fragilité. Donc ils ont suivi le mouvement, mais ils sont allés bien plus loin.
Mais il y a la conscience d'une juxtaposition aussi qui explique cette adhésion à l'effort de recherche, juxtaposition des patois des Valais. Et puis dans le Valais, dans le canton dont on va parler essentiellement aujourd'hui, il y a des alémaniques en minorité et des francophones.
Tout à fait, on est dans un canton qui est complètement bilingue, où la guerre fratricide des Suisses alémaniques et des Suisses romands, donc des francophones et des germanophones, a été terrible pendant des siècles. On a mis du temps à se réunir, mais ça c'est un peu l'histoire de la Suisse en général, hein, on s'est beaucoup taper dessus avant de se dire qu'on allait marcher de concert, mais ça caractérise complètement cette typicité valaisanne d'être bilingue, de tradition catholique, avec à peu près 126 communes éparpillées entre des lacs et des montagnes.
Le glossaire dont on va parler maintenant concerne tous les patois romans. Mm-hmm. Il est donc lancé, on a donné la date en 1899, il est maintenant...
1899, pour être très précis, de manière helvétique.
Voilà, ouais. Oui, parce que le principe, c'est de mettre les équivalences, de cartographier l'aire du mot. Alors, 1899, aire géographique française, et 99, mm-hmm. c'est l'aire géographique suisse. Depuis 1973, c'est un institut universitaire de dialectologie qui porte l'effort interminable du glossaire dont vous parle Raphaël Maître, qu'on retrouvera plus tard chez les Bagnards.
Nous nous trouvons au glossaire des patois de la Suisse romande, qui est un institut de lexicographie dialectale rattaché à l'université de Neuchâtel, qui compte 4 étages de bibliothèque et qui est aussi rempli un peu partout d'un fichier, dialectal, qui a une centaine d'années, qui occupe pas mal de parois, et qui est ordonné dans 1343 boîtes, et qui compte 2,5 millions de fiches, qui constituent nos matériaux bruts. Donc nos matériaux bruts pour rédiger l'ouvrage qui s'appelle aussi « Glossaire des patois de la Suisse romande », et qui est une sorte de dictionnaire de toute la langue de Suisse romande, avec le français régional de Suisse romande et aussi le latin régional et la langue ancienne régionale qui est rattachée au patois dans les articles. Donc on a des articles multilingues avec 150 à 200 patois, parfois un seul patois pour certains mots, et dans lesquels on trouve aussi justement du latin, du français, de la langue ancienne. Donc ces 4 étages servent à rédiger un ouvrage qui compte déjà 7000 pages. Nous sommes à la lettre G, nous avons fini à la lettre G, et nous serons à la lettre Z dans les années 2060, nous pourrons nous retrouver pour le vernissage final.
Mazette. Alors, quand il dit langue ancienne, français régional, il fait allusion, Raphaël Maître, à l'origine qui est signifiée en face de chaque mot et qui est souvent franco-romaine.
provençal, le franco-provençal étant contemporain de la latinisation à l'époque romaine de la région.
Tout à fait. Le franco-provençal, on va dire que c'est une langue qui s'étend, une famille de langues qui s'étend de la vallée du Rhône, donc Lyon, jusqu'à la limite du Jura, Neuchâtel, Fribourg et toute la Suisse romande. Et Val d'Ost.
Le Val d'Ost.
Qu'il ne faut pas oublier.
Si important. Mm-hmm. Alors, le glossaire constitue, dès 1900, des réseaux de correspondants.
Mm-hmm. Alors, moi, je trouve cette aventure du glossaire complètement dingue. Parce que il faut quand même imaginer qu'à l'époque, on a des moyens qui sont donc postaux ou à pied. Donc, on va effectivement solliciter le bénévolat, la passion de gens du terrain qui vont recevoir des fiches scientifiques, ils vont devoir remplir de manière très précise, renvoyer au glossaire, ceci pendant 10 ans, grosso modo de 1901 à 1910 par là, 11. Ensuite, on va faire un travail de terrain, on va collecter des sons, recouper des sources, et la première publication sort en 1924. Et donc, comme le dit Raphaël, c'est une aventure qui continue encore aujourd'hui, et ça semble complètement aberrant d'aller étudier avec autant de précision et autant de moyens humains et financiers, une langue que presque plus personne ne parle aujourd'hui.
Alors, parmi les correspondants, un nom qu'il faut retenir en face de Val de Bagne, le nom d'un berger.
Gabu, le grand. Oui, alors moi je suis amoureuse de Gabu, je l'aime profondément cet homme. Il est d'ailleurs très proche de ce Maurice Chappaz que vous avez magnifiquement cité au début de l'émission, qui était un environnementaliste, un humaniste avant l'heure, mais je ne vais pas vous parler tout de suite de Gabu, mais c'est vrai qu'il faut le retenir. C'est un jeune berger qui est né à Lourtier, au fin fond du Val de Bagne, dans un tout petit village de montagne.
Il y a des questionnaires écrits auxquels il faut répondre. Souvent, on revient parce que le premier jet n'est pas jugé suffisant. L'âne, le mulet, le chien, ça peut être un thème. La chèvre, le mouton, un autre thème. La lessive, un autre thème. Et puis, peu à peu, il peut y avoir interlocution, contact direct, comme dans l'Atlas ethno-linguistique de France que je citais, entre l'informateur, ici René Format, à Prat du Fort, sur la commune d'Orcières, et le collecteur.
Puis la société de tir à l'époque, elle est à côté de l'école,
madame. C'est un magasin à Rose, là. De là, c'était la main de la cure.
Et puis la société de tir, c'était dans de l'école, là.
Dans l'école, oui.
Dans l'école,
le stern, là. Il y a encore un haut, il y a encore le trou, un haut, là.
Voilà.
On allait se cacher.
Ouais.
Parce qu'on avait, là, les cibles, c'était pas mouvant. Il fallait rentrer et sortir.
Oui. Puis à l'époque, c'était valable pour les tirs obligatoires de l'armée.
C'est sûr.
Ah, c'était valable, c'était reconnu, tout.
Diable. Ah, ouais. Puis on avait pour le pistolet, on tirait derrière par le faux. On avait le rancard, le stage.
Ah, d'accord.
À 50 mètres, donc, on était au pistolet.
Tout en retient, Karel, si on a un peu compris, que ça peut être bon de partir de l'expérience concrète de l'informateur. Où est le stand de tir? Est-ce que ça servait pas à la formation pour les périodes de réserve dans l'armée suisse? Où est la cure à côté? Et de fil en aiguille?
Mais la caractéristique d'un patois, c'est d'être porté par un individu avant même d'être porté par une famille de locuteurs. Ça veut dire qu'il y a un patois presque par personne qui a sa manière de porter une langue, de la préciser, de la vocaliser. Et donc oui, c'est important d'aller à la source. Puis ensuite, parce que le patois, il a aussi, il est très dans cette imagination ou cette image de l'autre. Donc il caractérise un lieu, un geste, une pratique, le rapport aux bêtes, le rapport à la terre. Et donc il fallait aller effectivement, en tout cas tant qu'ils étaient vivants, et c'était une course à l'époque contre le temps, aller recueillir la source de ceux qui pratiquaient ces patois.
On a du mal à comprendre ça en France, parce que même les tenants des langues régionales, je pense aux tenants de l'Occitan, aux disciples de Repart-Sémon, qui a fait renaître le breton, il ne doit y avoir qu'un Occitan, comme dans les monuments littéraires d'origine de l'Occitan, il ne doit y avoir qu'un breton, et pas des bretons parlés par des illettrés imbéciles, comme souvent craignait de les voir se multiplier Repart-Sémon. Et nous, on aime bien l'unité.
Alors, je dirais qu'en France, on a souvent considéré que la langue, une langue faisait une unité. En Suisse, on n'appréhende pas la langue de la même manière, on appréhende les langues comme la diversité fait l'unité. C'est vraiment deux manières d'aborder les choses qui est très différente.
Alors, l'effort est un effort de cartographie. Donc, à chaque mot correspond une surface géographique. À chaque prononciation correspond une surface géographique. Et puis, peu à peu, l'enregistrement est devenu possible. Alors l'idéal, ça serait de pouvoir mettre un magnétophone qui tourne sous-sol dans un salon de coiffure ou dans un café. Mais enfin, on est obligé souvent de passer par le truchement humain ou par la radio. Ça a eu un rôle important, la radio, dans la collecte des patois en Suisse romande. Radio Lausanne a fait 40 ans d'émission sur
Mais il y a encore des émissions patoisanes, hein. Pas à la radio, mais à la télévision valaisanne.
Alors, une branche audiovisuelle du Grand Effort, avec Andrés Cristol, qui a eu la responsabilité de l'Institut de dialectologie de Neuchâtel.
Nous avons commencé à travailler sur le Valais pour des raisons pratiques, et parce qu'en Valais, probablement, les différences sont les plus fortes. Nous avons donc décidé de prendre un ensemble d'environ 350 phrases que nous demandons de prononcer à nos informateurs pour pouvoir comparer les différents dialectes valaisans. Le propre même du dialecte, c'est d'être différent d'un village à l'autre. Le charme même du dialecte, c'est de permettre la distinction. On se veut légèrement différent du voisin, tout en appartenant bien sûr à un même ensemble linguistique, à une même région culturelle. Pour illustrer les différences entre les différents patois, j'ai envie de vous montrer deux, trois exemples caractéristiques. Par exemple, la réponse que nous avons obtenue en Inde pour la phrase « On entend sonner les cloches ».
Au matin, à 6h du mien, on se descend à Wissatz.
Là, j'ai l'exemple de l'Ourthier, Val-de-Bagne.
On a huit jours dans Islots.
Et puis un exemple du Bas-Valais, à Trois-Torrents.
C'est à l'Islots.
Ce qui me semble important dans notre projet, c'est la possibilité de comparer des phrases voisines, soit d'un village à l'autre, ou à l'intérieur même d'un village. Ça nous permet d'illustrer un des points forts des dialectes traditionnels de Suisse romande. Ils ont en particulier un vocabulaire beaucoup plus spécifique que le français scolaire, le français officiel. L'exemple des cloches est assez utile parce qu'il y a cloche et cloche, comme nous l'expliquent nos témoins eux-mêmes. Une cloche d'église, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même objet qu'une cloche de vache.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les patois de la Suisse romande avec Karel Menin. J'insiste, le mot patois, il est revendiqué par les Suisses, il n'a pas le même sens que chez nous. Fallait-il faire vraiment entendre des vaches dans une émission sur la Suisse? C'est vous qui avez eu la responsabilité de la fabrication des sons que nous entendons.
Oui, alors c'était primordial pour deux raisons. D'abord parce que les patois de Suisse romande sont liés à la terre et que la terre est liée à l'animal. Et que encore aujourd'hui, quand on va voir les bergers, ils s'expriment avec les vaches en patois. Ils vous disent même des fois que s'ils essaient de leur parler français, elles ne comprennent pas. Et ensuite, la particularité des vaches du Valais, et notamment de la vallée des Rémences, qui est voisine du Val-de-Bagne, mais on en trouve un petit peu partout, c'est d'être une vache noire, d'avoir une vache noire qui s'appelle la vache des Reins, qui a aussi une autre particularité, c'est qu'elle combat naturellement, elle se bat entre elles, les femelles se battent pour élire leur propre reine, et c'est un combat qu'on peut observer tout l'été. Et moi j'aime bien les combats qui n'ont pas d'autre objectif que d'être, de voir les rapports de force sans chercher une compétition quelconque ou un honneur quelconque, mais ils ont un rapport, les bergers ont un rapport amoureux à leurs vaches, et ils vous diraient que si une reine perd la couronne, elle part en dépression, donc ils font attention à elle, ils l'accompagnent, ils accompagnent sa déception. Enfin, voilà, tout ceci est lié. On ne peut pas parler patois sans parler du bétail, des vaches et des bergers.
Donc, en mangeant vos saucissons en viande d'airain,
oui,
que vous nous avez offert, nous penserons au thème du combat dans le Val de Bagne. Mais qu'est-ce que c'est que ce Val de Bagne?
C'est ici que commence la vallée de Bagne, sur la route du Grand Saint-Bernard. L'une des plus belles vallées du vieux pays, une commune aussi, la plus grande de Suisse, la commune de Bagne compte 18 villages et hameaux. Il y a un quart de siècle, tout ce pays constituait certes une pittoresque vallée, mais une vallée enracinée dans la pauvreté. Les deux tiers de la superficie du territoire étant improductifs, on se livrait essentiellement à l'élevage du bétail, à l'exploitation des forêts, à de maigres cultures et, surtout, à l'artisanat.
Une description de la radio suisse romande qui date 1968 et qui fait surtout référence à l'état du Val de Bagne, je sais pas moi, en 1900, quand il y avait 4000 bagnards et pas davantage. Et alors aujourd'hui?
Combien il y en a?
Oui. Mais c'est comment on y va? Il y a des trains maintenant.
Ah oui, non, on y va en train.
Alors, mais pas depuis si longtemps.
Non, pas depuis si longtemps. Bon, de toute façon, le train en Europe, c'est pas si vieux non plus. Hein. On a bien dit que le TGV est remonté à Pompidou.
Georges Pompidou, on a entendu ça tout à l'heure sur France Inter.
C'était un peu plus récent que ça, mais donc le train, c'est pas une aventure si ancienne. Mais alors, pour aller dans le Val-de-Bagne, c'est simple. Vous quittez le lac Léman, vous le laissez dans votre dos, vous arrivez à Martigny, vous prenez à droite, et puis là, vous montez, vous montez, vous montez. Donc, vous pouvez prendre le petit train qui monte à travers la Roche. Vous pouvez y aller en vélo, vous pouvez y aller en voiture si évidemment vous en avez envie.
Et vous pouvez descendre à ski des
évidemment,
pistes
à la station de Verbier.
La station de Verbier.
Bien sûr, station totalement anglophone aujourd'hui, mais qui pratique la pratique du ski depuis bien longtemps et qui dont la richesse a permis la parution du dictionnaire des patois de du Val-de-Bagne, puisque c'est la richesse de la commune du Val-de-Bagne liée notamment au barrage hydraulique et à la station de ski, qui fait qu'ils ont financé un extrait de cette grande aventure de dialectologie dont on parle depuis le début, qui est l'aventure du glossaire des patois de Suisse romande, dont la lettre Z paraîtra en 2060. Ils ont décidé d'en extraire un bout uniquement consacré au Val-de-Bagne, avec ce dictionnaire de 4 kilos qui vient de sortir.
Oui, un bout de viande oui. Solide, 4 kilos et un DVD. Alors, la moitié peut-être de ce qui est dans ce dictionnaire vient de Maurice Gabu. On va reparler tout à l'heure de Maurice Gabu. Mais l'initiateur, c'était Maurice Casanova, qui est mort en 1995, avant même d'avoir pu entamer la tâche qu'il avait initiée.
Tout à fait, c'était le premier qui avait envie justement de pouvoir concrétiser le travail de dialectologie qui était mené depuis déjà plusieurs générations de chercheurs, de l'avoir dans les mains, et il portait ce rêve de manière presque, je dirais, physique, et à sa mort, ses amis ont pris le relais, mais surtout il y a eu le fait que Raphaël Maître, qui était à l'époque un jeune dialectologue qui arrivait au centre de Neuchâtel,
qu'on entendait tout à l'heure,
voilà, qui lui a eu envie de tenter cette aventure. Ils ont mené ce travail à trois, avec notamment aussi Gisèle Panatier, qui est une dialectologue de L, vraiment la partie des Volaines où on parle encore, on pratique encore au quotidien.
Les Volaines, c'est une commune où l'école a longtemps été en patois.
Exactement, puis c'est une commune où on parle dans la rue le patois et on le pratique encore beaucoup plus. Mais c'est vraiment alors la dernière des communes retirées du Valais, donc elle est encore plus lointaine. Et donc cette aventure, je dirais qu'elle est avant tout le résultat de passion d'hommes pour leur langue.
Et vous n'avez pas cité Jean-Charles Chelet parce que vous l'avez interrogé, et pas dans n'importe quel endroit. Ce petit groupe, il a pris un nom, le Crépa, et où s'est-il installé? Dans un abri, un ancien abri anti-atomique.
On est devant un garage en fait?
Non, c'est la clé de l'abri anti-atomique. Alors, c'était un lieu où justement ça a été créé en cas de sinistre, et puis... toujours resté vide.
Local de désinfection, c'est marqué.
C'est un petit dédale de...
C'est un labyrinthe, en fait.
Toutes ces pièces étaient vides, mais ils les ont remis sur pied pour peut-être accueillir des émigrés quand ils venaient d'Italie.
On les met dans un centre abri atomique.
On imaginait que tous ces émigrés libyens, africains, qui passaient la Méditerranée, allaient déferler par le camp Saint-Bernard. Donc il fallait trouver une solution pour les héberger.
Les accueillir en urgence?
Oui, en urgence. Alors, j'espérais qu'il y avait quelqu'un qui doive dormir ici dedans. Donc la pièce n'est pas... gigantesque, mais elle est pleine.
Ah oui, d'accord, effectivement.
Alors, ça, ce sont nos archives.
Vous recevez, à un moment donné, donc une vingtaine de boîtes d'archives. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre à vous avec les documents Gabu et ces boîtes?
Alors, du moment où on a déménagé de Bagne à Sambrancher, je suis tombé sur ces archives. Et ça a été vraiment une sorte de révélation. Donc j'ai commencé à dépouiller pour aller un petit peu plus loin, les inventorier, les classer, les trier et tout ça. Donc j'ai trié le fonds Gabu. Et puis, faut pas être devin pour imaginer que c'était quelque chose d'absolument extraordinaire.
J'aimerais vous demander, on a à côté de nous les 46 cahiers de Gabu. J'aimerais vous demander que vous puissiez lire un extrait de Gabu en patois. Il aimait bien les jeux de mots et je trouve que ça va bien avec le patois, les jeux de mots.
Portetek porte au cofanon en procession. C'est une devinette. Pour 5, va pas te seuler.
Ça veut dire quoi?
Donc ça veut dire. Bon, c'est une. Pourquoi est-ce que, lors des processions, on porte l'étendard? Et, alors la réponse est toute simple, parce qu'il ne peut pas y aller de lui-même. C'était peut-être le côté un peu anticlérical de Gabu qui ressort. Coete que va a weatit deso. La réponse est itats. Hein, ça c'est intéressant, c'est un joli mot. Qui c'est qui va avec la tête renversée? Ben, les clous des chaussures. Les tats, c'est les clous des chaussures. Et le fabricant de clous s'appelait le tatier.
Le deuxième interlocuteur que vous interrogez dans l'ancien abri anti-atomique de Sambranchet, c'est Jean-Pierre Delars, qui lui est un simple patoisant, c'est pas un chercheur.
Non, mais est-ce que quand on est patoisant, on n'est pas chercheur aujourd'hui finalement, on est dans sa langue. Mais oui, c'est lui qui a accompagné les chercheurs, les dialectologues, et y compris Jean-Charles Felet qu'on écoutait au début, qui est donc l'archiviste du CREPA, le Centre Régional d'Études des Populations Alpines de Sambranchet.
Et vous qui n'êtes pas patoisante, vous êtes chercheuse associée au CREPA, comprenne qui pourra. Mais peut-être êtes-vous guidée par l'amour de Maurice Gabu.
Ah, complètement. Ouais,
Qui est Maurice Gabu?
Alors, Gabu. Moi, je l'appelle Gabu parce qu'il avait plusieurs, il s'était donné plusieurs noms. Mais c'est un jeune homme qui naît en 1885 à Lourtier, dans le Val-de-Bagne, qui meurt brutalement en 1932 à l'âge de 47 ans. Entre-temps, il est passé de berger à journaliste, rédacteur en chef du Confédéré, donc un homme reconnu qui, à sa mort, va être salué. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce jeune berger, dont la maman était totalement analphabète et le papa illettré, c'est-à-dire qu'il savait compter les moutons et lire un petit peu, mais guère plus, pour qu'il devienne cet homme, ce citoyen qui va être anticlérical, féministe, pro-européen, antimilitariste, qui va prendre des positions de libre penseur, extrêmement, qui va se déclarer socialiste au sens pur du terme. Enfin, eh bien, il se trouve que dans les archives dont parlait Jean-Charles, il y a 46 cahiers qui sont les 46 cahiers brouillons qu'a tenu Gabu pendant quelques années, de ses 16 ans à ses 20 ans. Et ces cahiers sont une œuvre d'art, je dirais une œuvre d'art brut, au sens où esthétiquement c'est un objet à observer dont on ne peut que tomber amoureux, où on voit une écriture dévorer la page de la première marge à la dernière, de manière broussailleuse. C'est très impoli la manière dont il travaille. C'est en Pérec avant l'heure parce qu'il liste tout, les noms des cols, les noms des femmes, les noms des fleurs, enfin voilà. Et c'est quelqu'un dont on va, en tout cas moi ce que je vais observer à la lecture de ces cahiers, c'est que c'est ce que fait la lecture tout court à la pensée d'un homme.
Les références du dictionnaire du patois de Bagne, c'est sur notre site.
Oui, et puis c'est beaucoup du Gabu.
La parution de votre livre sur Gabu, c'est pour bientôt. Vous allez sûrement trouver un éditeur, Karel Ménine. On a déjà le titre, c'est Télérama qui l'a inventé. Le patois de Gabu, c'est tout un roman. Avec un dé. Et le personnage que vous dessinez n'est pas sans rappeler Desguignets, paysan bas breton qui tenait des cahiers, qui était lui aussi anti-clérical et tout à fait étonnant dans ses opinions. Les mémoires d'un paysan bas breton, ça a été un succès, 100 000 exemplaires en Bretagne. Un public comparable à celui de la Suisse romande. Merci à vous, Karel Ménine.
Jean.
Cette émission a été réalisée par vos soins avec le concours de Franck Olivard ici à Paris. Christian Gratalon, pardon, à la technique et Audrey Ripouille, je ne vais pas me tromper sur son nom, à la réalisation. Mathieu Vidard.
Oui Jean, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant dans la tête au carré.
Je ne suis pas trompé sur votre nom.
Oui, bravo. Les troubles des conduites alimentaires, ce sera le thème de l'émission dans un instant, monsieur Lebrun.
Très bien, moi ce sont les troubles de l'élocution qui me frappent.